à Open Doors, au Festival de Locarno, avec Yanis Pérez, Rivas pour ceux qui la connaissent ainsi, qui va nous parler en français en plus, c'est extraordinaire. Bonjour.
Bonjour.
Et qu'est-ce que t'as à Locarno, Open Doors?
En français. Mais super. Ça a été une très bonne expérience depuis le début. Une grosse opportunité aussi pour un projet en développement, mais pas simplement pour. Pas que pour le projet, aussi pour. Pour les contacts, mais aussi pour la carrière, c'est ça que je voulais dire. Aussi pour la carrière, c'est une grosse opportunité d'être ici parce qu'en fait, quand on commence, même si on a fait des festivals avant ou des marchés, c'est toujours important d'avoir cette opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, surtout les personnes de l'industrie, les gens qui ont beaucoup plus d'expérience et qui sont là et qui, en fait, grâce à ce programme d'Open Door, ça donne l'opportunité d'être en phase 2. Être en phase 2 d'une façon différente parce qu'ils nous regardent d'une façon un petit peu plus curieuse quand on est dans un programme pareil comme Open Doors. Donc je suis très content et très ravie d'être là.
Et puis Yanis, il me semble qu'Open Doors ça accompagne les projets pendant toute l'année aussi.
Oui, c'est vrai qu'en fait c'est un programme qui est assez nouveau, inconnu de ma part. Donc je découvre petit à petit. En tout cas jusqu'à maintenant, ça commençait super bien. Ça commençait online avant de venir ici à Locarno. Ensuite ils nous ont amenés ici à Locarno. Donc on verra ce qui se passe après. Mais normalement j'ai l'impression que c'est ça. Ils vont nous suivre pendant toute l'année.
Et pour parler de l'arrivée au cinéma, d'abord comme actrice et après comme guionista et directora, comme réalisatrice et scénariste, comment s'est fait ce processus?
Très bonne question. C'est vrai qu'au début, je pensais être juste actrice, mais je voulais rencontrer des histoires et je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire. Mais si vous voulez, j'ai jamais fait une école de cinéma.
Et, autodidacte?
Autodidacte, oui. Donc passer de jouer à réaliser, à écrire, c'était, comment dire, j'avais besoin un petit peu de validation.
De
validation, validation.
D'être validé.
Voilà, je voulais le faire, mais passer à l'action, c'était un processus un petit peu long peut-être, parce que je ne me croyais pas capable, hein, parce que je n'étais pas allée dans une école. Donc je me suis dit, t'inquiète pas, mets-toi à faire un court-métrage, tu vas voir qu'est-ce que ça donne. Donc je commençais par faire mon premier court-métrage, en me disant, bon, je vais voir si je suis faite pour ça. Et en fait, je ne pouvais pas me payer une école, donc je me suis dit, je mets tout l'effort, l'argent que j'ai pour cet court-métrage, et ça sera mon première année d'école. Et donc là, j'étais validée, parce qu'il y avait des gens qui m'ont soutenue.
Et repérée.
Repérée, voilà. Et ensuite, voilà, des festivals qui ont accueilli mon film. Ça m'a donné...
Une légitimation.
Voilà. Et je me suis dit, ok, bon, je peux faire le 12e année, ça veut dire mon 12e court-métrage, et continuer à apprendre. Et tout ça m'a permis aussi, les court-métrages, ça m'a permis d'expérimenter un peu, d'apprendre en fait en faisant. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, je fais mon troisième projet, c'était un documentaire. Un documentaire de 78 minutes et que je considère mon dernière année à l'école. C'est comme ça que je l'ai vu.
Le travail de mémoire, de diplôme.
Ouais, c'est ça. Moi-même, je me suis donné le diplôme et je me suis dit, ah oui, je suis réalisatrice.
Félicidades.
Ouais, merci. Et j'ai dit, oui, je suis. Ouais, je suis filmmaker, Et voilà, donc maintenant, je prépare mon premier long métrage de fiction.
On doit déjà arrêter, c'est très court apparemment. Ouais. Les projets, parce qu'il y a eu le film qui était primé à Toronto, compliment, et ça a ouvert des portes, j'imagine. Oui. Ça vous a fait voyager, ça permet d'autres projets.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'être à Toronto, c'était déjà une grosse... un gros prix d'être déjà pris, mais après avoir reçu le prix, c'était vraiment quelque chose de très important pour le film, mais aussi pour ma carrière. Ça a ouvert beaucoup de portes. Je pense qu'encore ça joue dans les choses, dans les portes que je frappe à ce prix-là, que j'ai reçu à Toronto.
Et donc les projets, rapidement, Yanis?
et de quoi ça parle, c'est ça?
Non, le projet, los proyectos.
Oui, qu'est-ce que j'ai comme projet?
Estás escribiendo de momento.
Oui, estoy escribiendo, j'ai un projet qui s'appelle Cuando cae la lluvia et qui se passe au Venezuela en 1992. Donc c'est un film dominicain espagnol. Et pardon, c'est un film dominicain vénézuélien. Oui, c'est un drama social d'une petite fille de 9 ans qui garde du petit soeur de 7 à 5 ans pendant que sa mère travaille dans une mine d'or et to try to make ends meet.
Et justement, rapidement, puisqu'il n'y a pas vraiment d'aide au cinéma en République dominicaine.
En fait, oui, il y a une loi de cinéma qui a été créée et qui nous permet de financer des films, en fait. Et cette loi de cinéma a été créée il y a 5 ans à peu près. Et donc, c'est grâce à ça aussi que j'ai pu faire mon dernier documentaire, Jeffrey. Donc là, j'ai une partie de l'argent qui est déjà mise en place pour ce projet que je développe quand Nukai la joue bien.
Merci beaucoup, on se réjouit, Elinis, de découvrir la suite et plein de succès.
Merci beaucoup.
Merci. Nous sommes toujours avec Elinis et pour finir, elle a plus de temps, nous en profitons. Il y a aussi eu le travail avec Olivia Saez,
oui.
Ça a aussi ouvert des portes.
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que je dois beaucoup à Olivia Saez parce que je jouais dans son film un petit rôle. Voilà, j'étais hyper contente, j'étais à Cannes et tout. Mais en fait, c'est vrai que c'est très important pour ma carrière de réalisatrice parce que là, j'ai rencontré des collègues qui m'ont soutenue depuis mon premier court-métrage, notamment le color corrector, how do you say in French?
En espagnol, es.
La correction del color.
La correction de la couleur.
Oui, mais attendez, en français, quand on dit... L'étalonnage, l'étalonneuse de mes plus larges courts-métrages, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui en fait j'ai rencontré grâce à le film où je travaille et elle travaille avec Asayas et des autres réalisateurs très importants et aussi le sound mixte, le mix du son. Il s'appelle Olivier Guanard et lui il travaille aussi avec Asayas et il a travaillé dans le premier film des... On est plein de réalisateurs, je ne veux pas tout nommer, mais aussi ma monteuse Mathilde Van de Mortel, qui est française et qui a monté le film qui s'appelle Moustan. Donc c'est vrai que je lui dois beaucoup à ces gens-là et que je peux le rencontrer grâce au film d'Olivier Assayas. Donc ça aussi, ça m'a donné un peu de validation, cette validation soutenue que j'ai voulu avoir quand je me suis lancée. À voir si tu pouvais réaliser ou écrire. Ouais,
Yannelis aussi, quand Jeffrey a eu un prix à Toronto, ouais. Ça s'est ouvert, ça a permis de voyager dans plein de pays jusqu'à la Grèce.
Tout à fait, ça a ouvert beaucoup de portes, beaucoup de festivals. Pendant 12 ans, 12 ans et demi, j'ai passé mon temps à voyager. J'ai profité pour visiter différents pays et différents endroits. Donc c'était chouette, c'était super. Et c'est vrai que ça fait aussi un petit peu des... Ça fait partie aussi des petites récompenses qu'on a parce que c'est vrai que c'est un métier de passion et où il n'y a pas vraiment tout le temps l'argent. Donc avoir les festivals qui nous invitent, c'est vraiment quelque chose de sympa.
Pour les auditeurs qui pourront voir Jeffrey, comment était le travail avec Joselito, qui veut qu'on l'appelle Jeffrey, Joselito de la Cruz,
oui.
Qui d'ailleurs est... En fait, il est danseur, il veut être une célébrité dans le reggaeton.
Oui, bon, mais c'était super. C'est un petit garçon à l'époque que j'ai rencontré dans la rue de Santo Domingo, Saint-Domingue. Et en fait, il amenait une vie d'adulte. Il avait 9 ans, mais il travaillait depuis qu'il avait 6 ans dans la rue. Et ça m'a fasciné comment il parlait. Il parlait parfois comme un adulte, en fait. Mais... Et je sentais qu'il avait quelque chose en lui, qu'il avait gardé aussi son côté enfant, qui est rare parfois quand les enfants sont exposés comme ça dans la rue. Et je lui ai dit, est-ce que je peux te visiter chez toi? Est-ce que je peux aller voir ta famille? Il m'a dit oui, donc je suis allée. Et en fait, quelque chose qui m'avait frappé dans le cœur, c'est quand je faisais le tour, il m'a montré un arbre très beau à côté de sa maison. Et je lui ai dit, ah, qu'est-ce que c'est bon cet arbre? Il m'a dit oui, mais je viens là. Je ne viens pas là la nuit parce que l'arbre, il marche. Et là, je me suis dit, ah, c'est ça le garçon que j'ai envie de filmer parce que je voulais filmer cette vie d'adulte qui amène certains enfants dans la rue, mais aussi je voulais capturer aussi ces côtés enfants qui me fascinent aussi.
Et de l'imaginaire.
Et l'imaginaire, exactement. En plus, il avait un rêve, c'est, il voulait être chanteur de reggaeton. Donc moi-même, ça me faisait rêver. Donc j'ai rêvé avec lui et finalement, j'ai fait ce film où je l'ai suivi pendant 4 ans. Et dans les films, on ne voit pas qu'il a 4 ans qui se passe, on dirait 6 mois, parce qu'en fait, il n'a pas grandi jusqu'à ce que je finisse le film. Moi, je finis le film, c'est très drôle, il a, physiquement, il a grandi. Et là, maintenant, il a 19 ans et il va bien. On l'a mis dans une école pour apprendre à lire et à écrire. Donc, il lit, il écrit. Et ça, ceci est quelque chose qui me tient à cœur de cette aventure que je fais avec Jeffrey.
Et donc, alors, on revient, puisqu'on a terminé l'interview, rapidement au projet. Pour l'instant, c'est l'écriture, c'est...
Pour l'instant, c'est l'écriture, c'est le développement de projet. Celui-là qui s'appelle Cuando cae la lluvia, c'est une série aussi que j'ai, une série qui s'appelle El País de las Maravillas.
Et c'est où, le Pays des Merveilles?
La République Dominicaine, dans ce cas-là. Mais bon, j'ai deux projets, celui-là qui se passe au Venezuela et celui-là qui se passe à la République Dominicaine. Mais toujours, en fait, les deux pays, parce qu'en fait, je suis moitié vénézuélienne, moitié dominicaine, ou à l'inverse, dominicaine-vénézuélienne. Et donc, ouais, c'est deux pays qui me tiennent à cœur et qui influent dans mon cinéma, je crois. Ouais, et les choses que j'écris et que je développe, ouais.
Par contre, on sait que le Venezuela connaît des périodes difficile depuis maintenant presque une décennie. Ouais. Ça va pour le cinéma?
Ah, le Venezuela, c'est très difficile en ce moment, bien sûr, politiquement, mais aussi pour le cinéma, pour la culture, pour tout le monde. Et c'est très difficile, en fait. Malheureusement, c'est une révolution socialiste qui a commencé avec beaucoup d'espoir, mais qu'en fait, ça end up, ça finit dans ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait, un pays en crise. Un pays qui n'a pas, où l'inflation elle est énorme. Et pour trouver à manger, c'est...
Même l'eau minérale, non?
L'eau minérale, tous les gens, ils font des... Ils dorment en face de l'endroit, ils vont acheter un sac de riz, peut-être. Peut-être, parce qu'il a tellement de demandes, mais peu de produits. Et c'est dommage. C'est un pays très riche, très beau, mais où le gouvernement, il est... Je le vois plutôt comme une dictature, à vrai dire, le Venezuela.
Hein.
Corrompu. Mais c'est une dictature, c'est juste que les médias, ils l'en parlent de temps en temps, mais en fait, c'est une dictature, vous allez voir. D'ici quelques années, ça va continuer comme ça, ça va être un peu comme Cuba. Je ne crois pas que le Venezuela va s'en sortir les prochaines 10 années. Au contraire, malheureusement. J'ai encore la famille là-bas et des familles qui ne veulent pas partir. Mais malheureusement, je ne crois pas. Le système, il est fait que ça va rester comme ça un bon moment, de pire en pire. Pour bien dominer le peuple, pour bien dominer tout le monde, pour que ça reste une domination. Pour moi, c'est une dictature.
Et c'est paradoxal parce qu'avant, le voisin, la Colombie, oui. Avec les FARC, oui. Les Colombiens venaient au Venezuela tellement c'était calme, oui. Et paisible.
Oui. Maintenant, c'est le contraire. C'est le... Je crois que ouais, c'est un des pays les plus dangereux en ce moment, et corrompu de l'Amérique du Sud, en l'Amérique latine en fait. Mmh. Entre Venezuela, Mexique, Brésil et des autres, il y a une combinaison là, des pays qui vont pas très bien, je crois. Mais bon, c'est mon point de vue. Hein. Mmh.
Merci en tout cas de nous l'avoir partagé, Yanis. Bon succès pour la suite.
Merci.
Et bon succès avec Open Doors.
Ah oui, merci beaucoup. On verra.
Merci pour l'entrevue.
Gracias a ti, gracias.
Felicidades.
Muchas gracias por las informaciones. Se ve que lo leíste, lo buscaste. Muy bien.